Vivez un ramadan gourmand avec le renard. Semoule, couscous et préparations prêtes à l'emploi. Numéro 1 de mère en fille depuis plus de 50 ans.
18h, 19h. Tour du monde avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle étape du Tour du monde à la découverte du rituel du Tour et des recettes locales du ramadan d'un pays lointain ou méconnu. Alors aujourd'hui, cap sur une grande destination gastronomique et aussi culturelle. Car si c'est évidemment un pays, c'est avant tout un archipel composé de plus de 16 000 îles. Mais c'est aussi plus de 1000 ethnies qui ont toutes apporté leur contribution à la cuisine, à la culture locale. Avec plus de 250 millions d'habitants, c'est le pays qui compte la plus grande communauté musulmane au monde. Et je vous souhaite la bienvenue en Indonésie. Alors, notre invité du jour, c'est l'un des plus éminents représentants de l'Indonésie en France, puisqu'il s'agit du professeur Warsito, qui est l'attaché à la culture et à l'éducation auprès de l'ambassadeur d'Indonésie en France. Bonjour, professeur.
Bonjour, Manu.
Comment ça va? On est ravis de vous accueillir dans le Tour du Monde.
Très bien, merci.
Et c'est vrai que vous êtes à la fois un gourmand, et puis, mais aussi un grand spécialiste de la culture et des traditions indonésiennes. Donc vous étiez totalement indiqué pour faire ce Tour du Monde avec nous. Oui. Alors nous, on appelait ça Tour du Monde, mais justement, première question, comment est-ce qu'on appelle la rupture du jeûne en Indonésie? Parce que on connaît Tour, Iftar.
Oui. C'est nous, iftar, ça c'était aussi, mais oui. En la langue qu'on connaît en Indonésie, c'est puka puasa.
Puka puasa.
C'est-à-dire, c'est l'ouvert de jeûne, quoi. Au coupé de jeûne. Voilà.
D'accord. Oui, oui, on le dit littéralement, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est...
D'accord. Alors, puka puasa, voilà. C'est puka puasa du puka monde puasa. Aujourd'hui. C'est
voilà,
fait. Très mais bien. Mais le jeu de mots ne marche pas avec
oui,
le tour
c'est
du
ça,
monde.
C'est ça.
Très bien. Alors, comme je le disais, hein, l'Indonésie, c'est plus de 16 000 îles.
Oui, et même plus que ça, en fait. 17 000
oui,
îles.
Oui. On en découvre encore aujourd'hui des nouvelles îles qu'on n'avait pas encore été
oui,
visitées.
C'est ça.
Alors justement, donc chaque île, c'est des climats différents, donc des terroirs,
exactement.
Des agricultures
exactement.
Différentes. C'est aussi exactement. plus de 1000 ethnies. Mm-hmm. Alors est-ce que c'est grâce à ça que la cuisine indonésienne est très riche et très variée?
Voilà, c'est justement grâce à ça et ça devient nous notre culture est vraiment soutien. Chaque région de garder toujours au niveau de culture, uniquement, surtout culture de nourriture, en fait. C'est comme de plats traditionnels de région. Ça, c'est vraiment, ça devient un mode de vie, quoi.
Oui.
Et les chances entre régions, ça devient national également.
Oui, bien ça. Sûr. Alors, la nourriture et la nourriture, c'est presque la deuxième religion indonésienne.
Voilà.
Hein.
C'est ça. On arrive des épices, des différents types d'épices. Et ça devient vraiment un vrai culturel, culinaire, quoi.
Voilà, d'accord. C'est ça. Alors, vous parlez des épices, professeur Warsito. Oui, c'est intéressant parce que la ménagère ou la cuisinière indonésienne, la première chose qu'elle fait quand elle se réveille le matin, c'est elle va au marché pour acheter ses épices et pour préparer ses pâtes d'épices.
C'est bio, voilà, c'est bio
pour la
directement.
Journée.
Voilà, c'est ça. Chez nous, on connaît pas le mot comment réfrigérateur ou bien comment congélé. C'est plutôt naturel.
Tout est frais.
Bien, voilà, tout est frais. Et puis, dans le même jour, on cuisine. Et puis, demain matin, on va encore au marché. Ou même derrière leur maison, on a toujours comment, un petit terrain qu'on peut cultiver. Et comment, les
pour
épices.
Pour ses légumes, voilà. Ses herbes,
voilà, c'est
etc.
Ça, c'est ça, voilà.
Alors, une particularité, justement, de l'Indonésie, parce que j'ai parlé de pâtes d'épices. Oui. C'est vrai que dans beaucoup de pays, les épices sont en poudre, elles sont moulues, elles sont séchées puis moulues. Donc, ça donne un goût particulier qui est agréable aussi. Mais en Indonésie, on cuisine les épices fraîches, notamment
exactement.
Le curcuma, le gingembre, etc.
Voilà.
Les épices sont fraîches et on fait une pâte avec. Et ce qui fait que la cuisine indonésienne est très particulière. Mmh. Elle a un goût, enfin des saveurs délicieuses au niveau des épices.
Oui.
Est-ce qu'il y a des pâtes d'épices de base que tout le monde connaît ou est-ce que c'est vraiment en fonction du marché on choisit est-ce que c'est la pâte d'épices du jour en fonction du marché comment ça se passe?
Oui, c'est ça, ça dépend en fait. Il y a ça dépend aussi le goût et dépend de région en fait. Il y a des pâtes qui sont vraiment très épicées. Mm-hmm. Mais il y en a qui sont lésés en fait. C'est vraiment dépend qu'on demande en fait parce que c'est en cuisine en direct. Ça dépend qui va acheter ou bien qui va goûter.
Oui, alors c'est vrai que dans la cuisine indonésienne, selon les régions, il y a des régions où la cuisine est épicée, c'est-à-dire il y a des épices, mais elle n'est pas forcément pimentée. Et il y a d'autres régions où là, on a un peu le feu dans la bouche. Quelles sont les régions où on mange le plus épicé en Indonésie?
Le plus épicé, c'est plutôt connu à l'île de Sumatra.
D'accord.
Et surtout, le centre de culinaire, c'est à l'ouest de Sumatra.
D'accord.
Qu'on appelle la ville de Padang. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment connu. D'ailleurs, ce qui est dans le monde, c'est rendang, n'est-ce pas? Vous connaissez tous.
Le fameux rendang, oui.
Voilà, c'est ça. C'est viande de c'est ça,
l'ouest élu de Sumatra. Meilleur plat du monde par les lecteurs de CNN Exactement. Travel plusieurs années consécutives.
Et ça, c'est reconnu par l'UNESCO également.
Oui, oui, complètement. Oui, dans le patrimoine culinaire indonésien.
Voilà, parce que ça dure longtemps, en fait. C'est, ça dure longtemps.
Et toujours sur le podium des meilleurs plats du monde, toujours selon les lecteurs de CNN Travel, le saté ayam. Alors là, c'est pas pimenté.
Saté ayam. Hein.
Le fameux saté ayam, c'est les brochettes de poulet avec une sauce à base d'arachide, de cacahuètes. Alors, le saté qu'on trouve aussi en Chine, en Thaïlande, il est assez différent en Indonésie parce qu'il n'est pas pimenté. Là, il est assez doux.
Oui. Chez nous, c'est avant de faire griller, on a déjà mélangé avec les épices. C'est les épices piment, et puis avec des nata de coco un petit peu qui est sec, et puis ça se mélange, puis avec
Oui, d'ailleurs, le lait de coco, on l'utilise beaucoup à Java. Hein. Les sauces sont plus douces.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Et Sumatra, plus épicé.
Voilà, c'est ça. Java centre. Mm-hmm. Java Tengah. On l'appelle, c'est centre de Java. C'est plutôt, c'est pas... Comment sucré, quoi. On peut dire comme ça, mais c'est vraiment complètement.
C'est presque, presque sucré, presque sucré.
Et salé.
C'est quoi, il y a
salé,
du sucre de palme, non, ou quelque chose comme ça.
C'est
ça,
nature,
qui donne un goût assez doux. C'est pas trop sucré, mais c'est doux. C'est légèrement doux. Contrairement au saté, effectivement, thaïlandais ou chinois, qui sont plus pimentés et salés.
Voilà. Même saté, il y a plusieurs types aussi. Il y a saté de l'ouest Sumatra. C'est plutôt de bœuf, en fait, basé de bœuf. Il y en a saté qui est connu en Java, c'est le saté de poulet, avec la sauce de cacahuète, ou bien la sauce de soja. Soja.
Soja, sauce de soja, d'accord.
La sauce de soja, et puis un petit peu pimenté. Et puis il y a qu'on l'appelle, qui est connu aussi, c'est saté madura, voilà.
Alors en fait, ça, c'est basé, quoi, ça? Ça, je connais pas.
C'est basé, c'est le nom de Nil, quoi.
D'une île, saté Madura, d'accord.
Voilà, mais c'est connu.
C'est le saté local.
Voilà, saté local, mais ça devient saté national.
Ah oui, bah oui, évidemment.
Parce que c'est, tu vois, avec d'agneau, quoi, en fait.
D'agneau, d'accord, avec de l'agneau.
Oui, c'est vraiment, exactement, c'est super.
Très bien.
Ça m'avait envie de rentrer en Indonésie, là.
Bah oui, en plus, en ce moment, que c'est compliqué de voyager, hélas. Hein.
Oui.
Alors, justement, bon, on a parlé de l'Indonésie, plus grande communauté musulmane au monde. Et puis, un archipel avec énormément d'îles. Ce qui veut dire aussi, bon, des ethnies différentes, des cultures différentes.
Exactement.
Et donc, au niveau de l'architecture des mosquées, on voit vraiment la diversité de la culture. En Indonésie, il y en a certaines qui sont avec des toits javanais.
Voilà, c'est ça.
Il y en a d'autres qui ont des toits qui font plus penser à des mosquées ottomanes un petit peu. Il y a des mosquées très modernes aussi. Quelles sont les plus belles mosquées en Indonésie?
Oui, en fait, il y a beaucoup de typiques parce qu'en fait chaque région ils ont la typique de mosquée qui est unique, destinée l'architecte de l'archipel de région. Parce que il y a une stratégie nationale que le gouvernement régional doit avoir le patrimoine côté le bâtiment, surtout pour la mosquée, qui est typique, ça devient une couleur de cette région.
D'accord.
Par exemple, je dis à la région de Lampung.
Parce que vous êtes originaire de Lampung, par exemple, la mosquée, le toit est vert.
Voilà, c'est vraiment avec le typique de l'étoile qui est typique de région, quoi, en fait. Avec, la reine, quoi.
Comme une couronne, un peu.
Voilà, comme une couronne, il y a sur
un diadème.
Voilà, ça, c'est vraiment typique. Et chaque région a sa spécialité, ça. C'est pourquoi si. ne sais pas, peut-être à la prochaine, il y aura un concours de belles mosquées en Indonésie.
Parce que ah bah l'Indonésie va... s'il y a un concours mondial, je pense que l'Indonésie va gagner beaucoup de médailles. Parce que notamment, parce que même aujourd'hui sur les mosquées modernes, il y a parfois ce que j'appellerais des délires architecturaux, mais dans le bon sens du terme, comme la mosquée des 99 dômes, par exemple, à Makassar, qui a été construite sur une île artificielle. Oui. On dirait presque une pyramide inca avec 99 petits minarets.
Ah oui.
Il y a vraiment une volonté de construire des mosquées qui sont à la fois des lieux de culte, mais qui sont aussi des monuments, quoi.
Voilà, une destination de, entre guillemets, touristique.
Oui.
C'est parce que c'est vraiment typique lié avec cette région. D'ailleurs, maintenant, il y a beaucoup de concours pour les universités, les étudiants en université qui travaillent ou bien au sujet d'architecte.
Sur le design, voilà, l'architecture.
Pour designer la mosquée qui est avec lié comme le fait qu'on fait la prière.
D'accord.
Si on fait le ruku, c'est-à-dire c'est après le debout, ruku.
La prosternation,
La prosternation. Il y a la mosquée qui est vraiment exactement moderne, mais avec l'architecte pour quelqu'un qui fait prosternation. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est à d'ailleurs c'est à comment à Sulawesi en fait qui
est en Sulawesi d'accord. Voilà. Alors il y a des mosquées qui sont impressionnantes par leur architecture, d'autres qui sont impressionnantes par leur taille, je pense notamment à la mosquée Ramatan Lil Alamin qui est à Indramayu West. Sur West Java. Alors la mosquée elle fait 7 étages et au dernier étage de la mosquée on peut mettre 4000 fidèles sur un seul étage.
c'est
impressionnant.
Indramayu pourtant c'est notre nouvelle destination touristique religieuse qui se trouve à l'ouest de Java en fait.
D'accord.
Indramayu c'est côté la place nord de Java. C'est vraiment c'est d'ailleurs c'est l'histoire de l'islam c'est connu aussi à côté ça. Il y a le royaume de Cirebon, l'islam de Cirebon qui est à côté ça Indramayu qui est vraiment connu avec l'islamisme de modernité.
D'accord, oui. Alors, autre influence dans le paysage indonésien au niveau de l'architecture des mosquées, influence chinoise. Il y a une mosquée qui s'appelle Chenghu à Surabaya. Et alors, cette mosquée, elle est posée sur un terrain de basketball presque. C'est-à-dire qu'elle n'est pas très connue.
La couleur qui est vraiment éclatant, quoi.
Oui, vert, rouge. Couleurs assez chinoises, d'ailleurs.
Voilà.
Hein.
C'est ça.
Assez chinoises. Alors, c'est une mosquée qui n'est pas très connue, mais il y a des touristes, parfois, ils vont jouer au basket et ils découvrent la mosquée, hein, parce qu'elle est vraiment collée au terrain de basket.
Exactement. C'est ça nous montre comment la tolérance en Indonésie, avec la culture, c'est tout. Il y a solution.
Oui, l'islam est complètement intégré dans la culture. Il n'y a pas la religion d'un côté et la société de l'autre. Voilà. Ouais.
Exactement ça.
Bon, parfait. Bah, écoutez, cher professeur Warsito, on va faire une petite pause. Okay. Comme ça, on va mettre la table et on va commencer à parler du ftour ou du iftar indonésien. À tout de suite dans le ftour du monde.
Tour du monde revient dans un instant.
Vivez un ramadan gourmand avec le renard. Semoule, couscous et préparations prêtes à l'emploi. Numéro 1 de mère en fille depuis plus de 50 ans.
18h, 19h. Tour du monde avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
De retour dans le tour du monde aujourd'hui, on voyage dans le plus grand archipel du monde, l'Indonésie, avec le professeur Warsito, attaché à la culture et à l'éducation auprès de l'ambassadeur d'Indonésie en France. Alors professeur Warsito, dans la première partie de l'émission, on a planté un petit peu le décor, de l'Indonésie, on a parlé notamment des mosquées, et de leur très belle architecture et de la variété de l'architecture des mosquées. Alors c'est l'heure de... on est à côté de la mosquée, on entend l'Aden qui vient de la mosquée. Oui. Et donc, c'est l'heure de passer à table et de rompre le jeûne. Mmh. Alors, pour l'iftar en Indonésie, vous m'avez expliqué effectivement que d'abord, au moment de la rupture du jeûne, on prend un plat ou une boisson sucrée.
Un peu sucrée, oui.
Ensuite, on fait la prière. Et ensuite, on mange des choses salées.
Voilà, principal, la place salée principale.
Okay. Voilà. Eh ben, on va parler des choses dans cet ordre-là aussi. Okay. On va respecter le protocole, on dit dans les ambassades. On va respecter le protocole. Alors, déjà, il y a un plat qui s'appelle le kolak.
Kolak, voilà. Kolak.
Alors, le kolak, c'est une compote. Parlez-nous un peu du kolak, professeur Warsito.
Oui, en fait, c'est la compote qu'on appelle en langue française. Mais en fait, c'est chez nous, partout, on connaît qu'on l'appelle cola. La compote est une boisson, en fait, à base de noix de coco, mélangée avec du sucre et puis des pommes, avec de la vanille, etc. Et puis, pendant le mois de Ramadan, ça devient vraiment un typique. Chaque Indonésien, d'habitude, doit déjà avoir devant eux, avant d'avoir en temps azan, c'est déjà un plat de cola. Qu'on l'appelle compote, c'est ça.
Une compote, ouais.
Voilà. Et le goût, c'est plutôt sucré, ça.
D'accord. Alors ça, on peut l'acheter un petit peu partout, dans les rues, etc.
Voilà,
donc si au moment de la rupture du jeûne, on n'est pas à la maison, il n'y a pas un restaurant à proximité, on peut acheter ça au coin de n'importe quelle rue pour avoir le temps de rentrer chez soi. Alors je vois aussi qu'il y a des feuilles de pandan dans la composition. Alors ça je connais.
Pandan, c'est pour donner le goût. En fait.
Oui.
Le goût de pandan. C'est typique bio et puis. Ça devient au niveau du goût, c'est ça, en typique. C'est qu'on ne peut pas imaginer parce qu'il y a la couleur.
Mais c'est mixé alors, hein, c'est ça?
Non, c'est avec la feuille.
À la feuille,
voilà, des morceaux de feuille entière,
d'accord.
Voilà, c'est ça. Et puis, avec différents contenus, en fait. Contenant de compote, il y a de bananes ou bien de patates.
Patate douce. La citrouille aussi.
Citrouille, et puis avec des fruits quand même. Il y en a avec des différents fruits.
D'accord.
C'est pas qu'on l'appelle quoi ici comme nanka. Moi, je sais pas en français. Nanka, voilà.
Bon, ça me dit rien, mais bon, on va demander à Philippe Robichon. Hein, voilà. Il suit des cours à l'ambassade d'Indonésie. Exactement. Que vous organisez, les cours d'indonésien.
Oui, c'est ça.
Qui sont gratuits, qui sont suivis
parce
par beaucoup
nous,
de monde.
Parce que nous, on a un risque de différents types de fruits indonésiens.
Parfois,
il y a des mots qui sont vraiment d'origine qu'on ne peut pas trouver.
Qu'on a du mal à traduire.
Voilà, c'est ça.
On peut dire que ça ressemble à quelque chose, mais on ne peut pas dire ce que c'est exactement. Voilà. Alors, donc original, donc même avec des feuilles de pandan dont on se sert en Thaïlande, non pas pour manger, mais pour envelopper les choses. On mange du poulet qui est cuit dans des feuilles de pandan en Thaïlande, qui sont frites après. On utilise ça aussi en Indonésie, la feuille de pandan, pour protéger les aliments pour la cuisson.
Non, on n'a pas trouvé une
différence effectivement à ce niveau-là. Alors on l'Indonésie, c'est un pays où il fait il y a plusieurs latitudes mais plusieurs faisceaux horaires, mais c'est un pays où il fait généralement assez beau. Et donc pourquoi pas des glaces, glaces à la banane verte, des glaces aux fruits.
Surtout avec le climat. Manu, parce qu'en Indonésie, c'est plutôt chaud. On a envie de la rupture de Ramadan, c'est la glace aussi. On a ici en Indonésie, par exemple, glace à la banane verte. C'est vraiment connu en Indonésie, qui est vraiment la glace qui est en fait basée sur la banane verte.
Donc, es pisang hijau. Hein.
Voilà, c'est ça en langue indonésienne. C'est es pisang hijau, c'est-à-dire banane verte.
C'est traduit littéralement.
Il est prêt à manger, mais la couleur, c'est toujours verte. Je ne sais pas si on trouve ça, mais c'est toujours avec la couleur jaune, n'est-ce pas?
On trouve de temps en temps des bananes vertes, mais c'est vrai que c'est plus chez les marchands spécialisés. Ouais.
Jaune, exactement. Verte, c'est-à-dire lorsque prêt à manger, c'est vert. C'est toujours vert, quoi.
Alors ça c'est un plat qui vient plutôt de Makassar, c'est ça?
Exactement ça.
Donc c'est consommé fréquemment pour la rupture du jeûne.
Oui. C'est mélangé avec farine de riz et puis avec farine de sagou.
Alors, c'est la question que je voulais vous poser.
Sagou,
la farine de sagou, qu'est-ce que c'est?
Sagou, en fait, c'est une art. C'est plutôt comme le type de cette herbe, c'est comme coco, c'est-à-dire l'arbre de coco.
Avec des très gros fruits.
Voilà,
gros. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle l'arbre à pain dans certains,
pays? Non, parce qu'en fait, le sagou vient de centre de cet arbre, en fait.
C'est le cœur de l'arbre.
Voilà, le cœur de l'arbre.
C'est comme les pousses de bambou, c'est l'intérieur.
Exactement. Mais la couleur, c'est vraiment blanche et vraiment, c'est facile à faire comme en poudre, comme ça, et puis ça devient,
comme les cœurs de palmier, un peu, ou des choses comme ça.
Exactement.
D'accord. Alors, donc, le sagou, une
c'est
découverte.
C'est plutôt à l'Indonésie, côté l'Est.
Côté Est,
côté Est.
Et alors, on fait aussi avec des feuilles de suji. Alors, le suji, nouvelle question, qu'est-ce que c'est que le suji? Toujours des découvertes à faire en Indonésie, au niveau de la cuisine.
c'est typique, en fait. Comment le suji, ça, c'est le type de, qu'on appelle, c'est une feuille de arbre, petite arbre qui donne le goût aussi, la couleur de typique de banane verte, en fait. C'est petit, plutôt petit, la fille, mais il donne le différent goût.
Alors, je vois ce que c'est, on l'utilise beaucoup en Inde aussi, pour faire les curry notamment, voilà, on met ça dans les curry.
Exactement.
Ouais, alors c'est effectivement quelque chose de très parfumé,
oui.
Alors donc pourquoi pas des glaces pour la rupture du jeûne. Alors il y a aussi,
avant ça, mais nous il y a aussi des dates aussi. Des dates qui est à côté, même en sol.
Oui, ça, la date, c'est le précepte coranique. Donc,
voilà,
c'est le point commun à la plupart des pays qui pratiquent l'islam, effectivement. Alors, on a parlé des glaces, donc bananes vertes ou des glaces de fruits, mais aussi en soupe, les fruits. C'est-à-dire que c'est une soupe froide, une soupe chaude. Comment est-ce qu'on fait les soupes de fruits?
Les deux, en fait. Il y a différents types. Il y a comment la soupe qui est froide, il y a la soupe qui est glacée, il y en a. Ça dépend, en fait, ça dépend de type de contenu qui seront dedans, en fait.
D'accord.
Parce que c'est pour, par exemple, la patate douce, la soupe, ça...
C'est plutôt chaud,
voilà. Et puis, il y en a différents types de fruits, ça plutôt glacé, plutôt froid. Voilà.
D'accord. Alors là, un plat que je ne connais pas du tout, c'est le chendol, je prononce bien?
Oui, c'est ça,
chendol. Ça vient de c'est très populaire dans l'ouest de Java. En quoi ça consiste?
Chendol, en fait, contient de la farine de riz.
D'accord.
Qui avec petit comme ça, et puis fabriqué avec à la base de, c'est ça, cassonade liquide, et puis avec du lait de coco et à la glace de râpé.
Ouais, de la glace, comme de la glace pilée qu'on,
exactement,
ouais, d'accord.
Exactement, si on fait râper
comme
ça.
Comment dire, un granité, on appelle ça, ouais. D'accord, donc quelque chose d'assez rafraîchissant aussi. Voilà. C'est vrai, c'est l'un des rares pays où on mange éventuellement quelque chose de froid au moment de la rupture du jeûne.
Oui, c'est ça.
L'Indonésie, c'est
ça.
Lié au climat, j'imagine.
Voilà, exactement, oui.
Voilà, et puis bon, un autre type aussi, c'est le jenang.
Jenang, voilà.
Alors ça, jenang, qu'est-ce que c'est exactement?
C'est le type de
de bouillie.
De bouillie, voilà. De bouillie, de différents types, en fait, qu'on appelle, il y en a jenang sum sum. Il est servi avec le lait de coco et puis avec le cassonade et compoté farine de riz. C'est toujours, en fait, c'est la base, c'est farine de riz.
Oui.
De riz, ça, c'est vraiment la
quelque
base.
Quelque chose de nutritif,
voilà,
pour la rupture du jeûne.
Oui, c'est ça. Et puis, avec une pincée de sel et puis feuillet de pandan. C'est toujours pandan pour donner...
Encore le pandan, oui,
voilà,
pour le goût.
Le goût, voilà. Le goût avec l'odeur aussi, ce que tu m'avais dit tout à l'heure, il y a l'odeur qui...
C'est très parfumé.
Voilà, ouais, parfumé, voilà. Ouais, parfumé,
pandan.
Voilà, c'est ça.
Alors, autre type de jenang, le jenang kandil.
Jenang kandil, voilà. Ouais.
Alors, on appelle ça bouillie de graines de salak.
C'est en fait, salak, c'est le type... Comme ça se voit un peu... tu vois, c'est un plat de jenang, kandil, ça. Comme un petit montagne, un pic.
D'accord.
Ça se voit, qui vient de farine de riz, ça. Mais il y a petite explosion.
D'accord.
Dedans, en fait, c'est typique, en fait.
C'est comme dans la publicité, c'est le double effet qui se coule. Hein, c'est
voilà,
ça.
C'est ça. si on serve dans le seau, parfois, il y en a qui explosent. Petite explosion, c'est unique, ça.
D'accord. Voilà. Et puis bon, rupture du jeûne. Alors là, on est plus dans le peut-être le salé, j'imagine.
Oui,
on
oui.
mange aussi des fritures, hein, des
voilà.
choses frites.
Oui, oui, c'est ça.
Alors quel type de choses? Parce que dans la cuisine indonésienne, on connaît les popias comme nourriture frite. Mais alors qu'est-ce qu'on mange comme friture?
C'est pas si c'est en train de parler de tempeh.
Oui, le tempeh c'est très à la mode chez les véganes.
Voilà, c'est ça.
Pour remplacer la viande.
Voilà, c'est basé de graines de soja en fait, et reconnu par dans le monde, c'est également dans l'UNESCO en fait, c'est typique indonésien. Et puis on fait comment fruit des tempeh, et également il y en a qu'on appelle bakwan, mélange de légumes en fait,
d'accord,
et avec de farine de blé, et puis on fait cuire. Ça c'est qu'on appelle bakwan, c'est vraiment typique avec un petit peu salé, un petit peu épicé. Et on mange avec le piment.
Piment, d'accord.
Voilà.
Là, c'est pimenté.
Voilà.
Pas épicé, mais pimenté.
Voilà.
Bon, le tempeh, en tous les cas, qui est une nourriture qui devient très à la mode chez les végétariens, parce que c'est nutritif, mais pas trop calorique. Alors, on va refaire une petite pause, professeur Warsito. Oui. On se retrouve dans un instant pour poursuivre ce tour indonésien. Mm-hmm. Puis là, on va passer aux choses sérieuses, parce qu'on aura fait la prière pendant la pause, puisque c'est l'ordre établi en Indonésie.
Exactement.
Et après, on attaquera des nourritures plus salées. À tout de suite dans le Tour du Monde.
Okay. Tour du Monde revient dans un instant.
Vivez un ramadan gourmand avec le renard. Semoule, couscous et préparations prêtes à l'emploi. Numéro 1 de mère en fille depuis plus de 50 ans.
18h, 19h. Tour du Monde avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
De retour dans le Tour du Monde. Aujourd'hui, nous avons posé nos valises en Indonésie avec notre guide d'un jour. Mais quel excellent guide, le professeur Warsito.
Avec grand plaisir, Manu.
En charge de la culture et de l'éducation à l'ambassade d'Indonésie à Paris. On a suivi le cours d'un ftour ou d'un iftar indonésien.
Voilà.
Allez, on a parlé des mosquées, on a parlé de l'Aden, on a parlé donc de ces nourritures sucrées et parfois même glacées pour la rupture du jeûne. Bon, après, c'est le moment de la prière. Et puis on se remet à table après les nourritures spirituelles, on passe aux nourritures salées l'iftar indonésien. Alors, on en a un petit peu parlé au tout début de l'émission, mais comment ne pas en reparler, parce que c'est vrai que c'est un monument de la cuisine. On a parlé des mosquées en tant que monument, mais un monument culinaire de la cuisine indonésienne, c'est le rendang. Alors, le rendang, c'est quelque chose, il faut le temps pour le préparer.
Oui, c'est ça, il faut longtemps, parce qu'en fait, origine de l'ouest de Sumatra, en fait, rendang, c'est vraiment reconnu, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est reconnu par l'UNESCO. Et le rendang est généralement fabriqué à partir de la base de bœuf.
Enfin,
c'est un morceau de bœuf. Et puis, utilisant diverses épices et cuit dans le lait coco. C'est toujours le lait de coco qui devient principal des épices.
Oui, la base de la sauce, c'est épices, lait de coco, piment, enfin épices et piment. Et puis, le bœuf qui cuit très, très longtemps.
Hein. Exactement. Et justement, c'est grâce à ça, ça devient... Le rendang, ça dure longtemps. C'est-à-dire, il n'y a pas... entre guillemets, je ne suis pas expatrié, mais ça dure longtemps. On peut utiliser même jusqu'à 2-3 semaines.
D'accord, ça se conserve très bien.
Exactement.
D'accord, oui, c'est la marinade et la cuisson très longue qui en fait un aliment aussi pratique.
Oui, c'est ça.
Donc j'imagine que quand on fait le rendang, on cuisine des grosses quantités alors.
Oui, exactement.
Parce que c'est long à faire. Pas forcément long à préparer, c'est long à cuire en fait.
Oui, c'est ça. Mais préparer, c'est ça. Long à cuire en fait.
Mm-hmm.
Mais pour préparer en fait, c'est pas aussi longtemps que ça. Mais jusqu'à 2 heures, 3 heures, c'est ça pour faire cuire. Même plus que ça. Et aussi au niveau de le goût. C'est ça dépend de level qu'on dit en Indonésie, c'est level de épicé. Parfois il y en a qui est trop pimenté
oui.
Et puis Il y en a qui est lésé.
Oui, parce qu'il y a du lait de coco dedans, voilà. Mais comme ça cuit très longtemps, le lait de coco ne suffit pas toujours à apaiser un peu le piment. Et donc, une cuisson très très longue. Mmh. Je me souviens quand on avait reçu le chef Degan, ici à la radio, Degan Septoadji, je crois, son nom de famille, qui est un chef très réputé en Indonésie. Il nous expliquait qu'il se souvenait, quand il était jeune, que sa maman mettait le rendang à cuire le soir et qu'elle arrêtait la cuisson le lendemain matin. Exactement. Donc, que ça pouvait cuire même parfois, dans certaines familles, 10h, 12h.
C'est ça,
Donc, un plat, et puis comme je le rappelle, qui a été élu plusieurs années de suite, meilleur plat du monde, hein, c'est pas rien, pas d'Asie,
pas
du monde.
Du
monde entier.
Parce qu'en fait, ça... pour différents comment différents c'est toujours le goût c'est général quoi le goût qu'on peut goûter quel que soit n'importe qui quoi qui peut goûter ce rendang en fait c'est-à-dire c'est pas le goût uniquement destiné en Indonésie mais le goût qui est plutôt général. Il y a le goût tout à l'heure qui est pimenté, il y en qui est moyen, il y a même moins, c'est ça dépend de l'air.
Alors le rendang c'est presque un peu c'est un petit peu sucré, c'est un peu doux même s'il y a beaucoup d'épices. C'est presque quand on le mange comme c'est très moelleux parce que ça a cuit longtemps, c'est presque comme un bonbon un peu, ça fond dans la bouche hein.
Ah non, c'est rendang c'est pour destiner peut-être c'est dernier level.
Oui.
Mais
oui.
En fait, c'est vraiment pimenté hein.
Ah oui. Quand il est préparé comme en Indonésie, c'est vrai qu'il est assez pimenté, mais c'est vrai qu'il y a un petit goût sucré derrière qui rend ça plus doux. Oui. Alors comme je le disais, élu meilleur plat du monde, mais ce qu'il faut savoir c'est que dans le top 10 des meilleurs plats du monde, il y a quand même trois plats indonésiens parce qu'il y a aussi le saté ayam et le nasi goreng. Alors parlons du saté ayam. Le saté, donc saté, c'est la fameuse sauce à base de cacahuètes dont on a parlé.
Et
ayam, c'est le poulet.
Voilà, c'est ça.
Alors, donc, ces brochettes de poulet au saté, elles sont différentes de celles qu'on trouve en Thaïlande ou de celles qu'on trouve en Chine. Parce que là, le saté, effectivement, comme on le disait, est un petit peu sucré.
Oui. Ce qui est typique, en fait, c'est nous, on prépare avec le. Comment avant de faire cuire, c'est-à-dire.
Griller. Au feu de bois, en général, souvent.
En général, voilà. Et ça, c'est déjà, il y a épices dedans.
D'accord.
Ça se mélange comme ça, et puis, derrière, on fait griller.
Ok, on fait mariner donc avant.
Exactement.
Et donc, ce qui fait un peu la différence avec les satés chinois ou thaïlandais, c'est qu'on met de la sauce de soja sucrée dedans.
Exactement.
Et donc, ça, avec la cacahuète, l'arachide, ça donne un goût particulier.
En fait, mais nous, en fait, il y a deux types. C'est ça, dépend de nous qui demandons, parce que ça se prépare direct. Il y a deux choix, parfois. Sauce basée en cacahuète, ou bien sauce basée sur le soja.
D'accord, ok.
C'est un peu. Soja, ça, c'est un peu comment sucré.
Sucré, oui. Voilà. Donc la marinade de la viande est la même, mais la sauce qu'on consomme avec, elle peut être soit à sauce de soja sucré ou une sauce saté, cacahuète.
Cacahuète, voilà.
Alors, un plat qui a un très joli nom, le ketumat. Qu'est-ce que ça veut dire, ketumat?
Voilà. Ketupat, ketupat, c'est en fait c'est le riz qui est cuit, mais qui était plutôt comment le plus dense. C'est dans une feuille de coco.
D'accord. C'est comme le riz gluant en Thaïlande, c'est un riz qui colle un peu. Hein.
Non, c'est pas riz gluant.
Non, c'est pas ça.
C'est riz normal.
Riz normal.
Mais on met dans un type de
c'est cuit à l'étouffer, c'est ça, comme on dit.
Oui, c'est avec de feuilles de coco en fait. On
D'accord.
met avec quelque chose qui qu'on peut mettre dedans en fait.
C'est une D'accord, comme une farce farcie,
voilà.
Ouais.
D'accord. Voilà, comme ça, on met dedans et puis on fait cuire jusqu'à
dans une enveloppe. Hein, ouais.
Voilà, enveloppe, voilà.
D'accord. Et alors donc, pourquoi je disais ça porte un très joli nom, c'est parce que ketupat, ça veut dire diamant, c'est
diamant,
ça
ouais. Non, le type de
c'est la forme de l'enveloppe.
Enveloppe, c'est ça, c'est comme diamant.
D'accord. Voilà. Okay.
Et ça, c'est vraiment connu, surtout pour la fête de Eid al-Fitr.
Eid al-Fitr, d'accord.
Ça, c'est vraiment connu, ça. C'est comme quelque chose qui n'est pas encore passé, la fête de Eid al-Fitr, s'il n'y a pas de ketupat.
D'accord. Très bien.
On peut dire comme ça, voilà.
Alors, c'est vrai qu'au Maghreb, et puis même dans d'autres pays, généralement, la rupture du jeûne, il y a toujours une soupe. Oui. Alors, en Indonésie, il y a aussi des soupes, mais on ne les mange pas forcément au moment de la rupture du jeûne. Mmh. Alors, quel type de soupe on trouve en Indonésie?
Voilà. Soupe, il y a deux types, en fait. Soupe, comme ce que je disais tout à l'heure, soupe sucrée et soupe salée. En fait.
D'accord.
Soupe salée, c'est on prépare, on peut manger avec le riz.
Ok.
C'est à base de différents légumes et puis avec parfois on ajoute de tofu.
Tofu.
Ou bien également tout à l'heure ce que je disais c'est tempeh.
Fameux tempeh.
Voilà.
Ouais.
C'est toujours ça, des différents légumes avec tempeh et de tofu.
Ouais. Alors qu'on commence à trouver seulement maintenant le tempeh en France parce qu'il y a de ça quelques années on n'en trouvait pas forcément.
Oui,
hein.
Oui.
Alors on parlait de soupe. Il y a une soupe très réputée en Indonésie et que j'ai goûté plusieurs fois, c'est le opor ayam.
Voilà. Hein,
opor ayam, c'est la soupe au poulet. Hein. Ayam,
voilà,
c'est
voilà.
Poulet. Hein,
voilà,
c'est ça.
Donc
ça, c'est très populaire. Opor ayam, c'est quelque chose qu'on mange vraiment, même en dehors du Ramadan, c'est une soupe très répandue.
Voilà, hein. À base de viande de poulet. C'est d'habitude, c'est opor. C'est, on dit opor, c'est automatiquement, c'est ça, la
D'accord.
soupe à base de poulet. Ça, okay. Parce que c'est en fait, c'est ce qui accompagne de ketupat, en fait.
Mm-hmm.
Avec diamant, tout à l'heure, ce qu'on vient de parler, on mange avec le opor.
D'accord.
C'est la soupe
à
base de viande de poulet, voilà.
Ok, donc le ketupat, donc ce qu'on appelle le diamant, c'est on le sert en même temps que l'opor ayam, et
voilà.
ça vient en complément.
Uh-huh.
Alors autre plat très très consommé pendant le Ramadan. Alors ça c'est très bon, hein. C'est aussi une viande mijotée, hein, comme pour le rendang.
Voilà.
Ça s'appelle semur daging.
Semur daging, exactement.
Daging. Hein,
voilà.
Oui. Merci
daging.
De me reprendre sur la prononciation.
Voilà.
Il faut vraiment que je vienne prendre des cours à l'ambassade.
Daging.
Hein.
Voilà.
alors ça c'est un ragoût de viande, mais qui cuit moins longtemps que le rendang.
Ouais.
Ça c'est, il y a quand même beaucoup d'ingrédients, hein, du galanga, des tiges de citronnelle, du laurier, sucre de palme, sauce de soja sucrée encore. On mange souvent, on met souvent du sucre avec les viandes type de bœuf, etc.
C'est même base en fait, même base que rendang. Mais ça c'est plutôt côté proche de c'est pas, je dis pas sucré mais doux, voilà. C'est plutôt doux par rapport de rendang. Et c'est ça au niveau de durée pour préparer, c'est pas aussi longtemps que rendang.
Ok. Alors on a tellement de choses à dire sur la cuisine indonésienne. Là, on arrive un peu à la fin de l'émission, mais on va quand même parler d'un plat. Donc parce que évidemment l'Indonésie c'est un très grand pays, donc il est voisin de beaucoup d'autres pays, et notamment il a une frontière commune avec la Malaisie. Alors il y a un plat d'influence malaise. C'est le lemang.
Lemang.
Alors qu'est-ce que le lemang?
Lemang en fait c'est typique, en fait, c'est entre l'Indonésie et Malaisie. C'est connu aussi en Malaisie, c'est connu aussi également chez nous, c'est surtout à la ville de Pontianak. En fait, c'est basé de riz gluant. C'est ça, différent avec le diamant ou bien ketupat. Ketupat, c'est vraiment riz normal.
D'accord.
Par contre, le lemang, c'est riz gluant.
Il y a beaucoup d'amidon dedans.
Voilà, qui a mis dedans dans de bambou. Bambou, et puis avec lait de coco, et puis avec du sel, etc. Et puis, ça va être comment? Faire griller.
D'accord.
Griller ou cuire, voilà.
Alors, le diamant, on va plutôt le manger avec le semur daging.
Apport, voilà.
Alors que le lemang, on va plutôt le manger avec le rendang.
Voilà, exactement.
Bon, allez, il nous reste très peu de temps. On va juste parler en deux mots d'un dessert, très rapidement. C'est un gâteau blanc neige. Alors, je vous laisse le prononcer en indonésien.
Oui.
Kue putri salju.
Kue putri salju.
Salju.
Voilà. C'est en fait basé sur la forme qui est croissant, avec la couleur qui est vraiment blanche, comme
D'accord.
on est. Et puis, vraiment très, trop sucré. Je ne sais pas le mot. C'est sucré.
Ouais.
C'est sucré. Et puis, en poudre, qui ressemble de neige.
Ça a la même forme qu'une corne de gazelle, comme
Exactement.
On mange au Maghreb.
Voilà, hein, voilà. Et puis, c'est vraiment... tout est farine qui est vraiment douce. C'est-à-dire, c'est...
avec une farine de riz, non, farine de blé.
C'est farine, les deux on peut faire.
Les deux
farine,
on peut faire.
Farine de comment, de riz gluant. En fait.
De riz gluant, voilà. D'accord. Mm-hmm. Bon, ben, on, ce sera une excellente conclusion pour cette émission, ce tour 100% indonésien.
Indonésien, merci.
On termine sur une note sucrée. On a commencé sur une note sucrée, on termine sur une note sucrée.
Voilà.
Mais il y a tellement d'autres choses à dire. Professeur Warsito, on va être obligé de vous faire revenir bientôt sur Beurre FM pour parler des centaines d'autres plats qu'on peut trouver dans la cuisine indonésienne. Voilà. Je reparle des cours parce que c'est vrai que c'est gratuit et c'est très bien.
Exactement.
Il y a des cours d'Indonésie à l'ambassade.
Oui. C'est en fait il y a le cours de bahasa indonesia, le cours la classe de indonésienne en fait qui a commencé il y a un mois là, maintenant c'est dixième, c'est comment le rancon.
Et il y a tous les niveaux de débutant à avancé,
alors intermédiaire avancé, voilà.
Non, on est pris par le temps, mais on va juste dire pour les auditeurs qui veulent regarder, vous tapez ambassade d'Indonésie sur internet et vous trouvez de toute façon toutes les informations sur
Instagram
le site
de l'ambassade d'Indonésie ou bien notre bureau, ça va, vous allez trouver.
D'accord, parfait. Merci beaucoup,
merci
professeur
beaucoup,
Warsito, Manu, d'être venu nous parler de toutes ces belles choses. Et on se retrouve évidemment très vite pour un autre numéro du Tour du Monde.
Bien, merci.
Retrouvez Tour du Monde tous les week-ends de 18h à 19h sur Beurre FM et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
C'était Tour du Monde avec le renard. Semoule, couscous et préparation prête à l'emploi. Numéro 1 de mère en fille depuis plus de 50 ans.